croise aux forces de l'esprit.
L'histoire abracadabrantesque.
C'est travailler plus, c'est gagner davantage.
Le changement, c'est une force.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission du Congrès KF, des paroles et des actes. C'est le titre détourné de cette plénière. Habituellement, nous accueillons sur ce plateau des gens célèbres qui font l'histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 400 personnes sur le plateau des paroles et des actes. Avant de commencer, j'aimerais faire un sondage à main levée. C'est mon côté socio qui ressort. Qui est marié ? Levez juste la main rapidement. Quand même, vous pouvez baisser les bras. Comment est-ce que vous savez que l'élu de votre cœur vous aime ? Vous me voyez venir. Est-ce que c'est juste par des paroles ou est-ce que c'est des paroles et des actes? J'aimerais parler cet après-midi de la dimension sociale de la mission. On parle de mission. Pour moi, un des plus grands missionnaires, en tout cas qui a bercé mon enfance à cause des écoles du dimanche, et je suis une preuve que les écoles du dimanche, ça marche, et j'aimerais remercier tous ceux qui font les écoles du dimanche semaine après semaine. Ça marche. Et l'exemple de missionnaire qui m'a percuté, qui m'a touché, c'est celui d'Hudson Taylor. Missionnaire anglais qui a fondé la mission intérieure de Chine, avec le succès qu'on connaît, parce que Christ l'a utilisé. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire d'Hudson Taylor. Il s'est adressé aux plus pauvres, et autre fait marquant, il aimait tellement les Chinois qu'il s'est habillé de la même manière qu'eux, des paroles et des actes. Le plus grand des missionnaires, comme l'expliquait Jonathan hier et ce matin, c'est Jésus, l'envoyé par excellence qui seul par amour peut combler les cœurs. Et en considérant sa vie, il est évident qu'il vivait cet amour absolument en parole et en acte. Et son amour en acte est allé jusqu'au bout. Romains 5, versets 6 à 8. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Des paroles et des actes. Et tout part des paroles et des actes de Christ. Et c'est parce qu'il a aimé le premier que nous voulons à sa suite vivre en paroles et en actes. L'objectif de ce congrès, c'est de parler de la mission dans tous ses états. Témoigner de notre foi ne peut pas se limiter à de simples discours. Que ce soit au proche ou que ce soit au loin, il faut associer une action à nos paroles. Et c'est en ce sens que j'aimerais aborder avec vous la dimension sociale de la mission, avec le menu que j'aimerais vous proposer ce soir, cet après-midi. Je vous propose juste de prier avant d'aller plus loin. Seigneur, je veux te remercier pour ton exemple. Cet exemple d'amour total qui ne s'est pas limité à de belles paroles, mais un amour qui t'a conduit jusqu'à la croix. Et Seigneur, chacun ici est ou peut être au bénéfice de ton amour en acte. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci parce que tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons suivre ton exemple en parole et en acte. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ce que tu veux nous dire cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Le monde évangélique est régulièrement traversé par des modes. À chaque fois, on a les mêmes refrains. Si on veut vivre la croissance de l'Église, connaître le réveil, il faut vivre telle activité, appliquer telle recette ou développer telle méthode. Est-ce que l'action sociale ne serait pas la nouvelle mode ? La question se pose, parce que plusieurs églises en parlent de façon plus soutenue. Et le CNEF récemment a d'ailleurs réaffirmé sa volonté de développer le travail social au sein des églises. Alors peut-être juste une précision pour qu'on se comprenne bien sur les mots que je vais utiliser. Quand je parle de social, je ne veux pas parler de travail social au sens strict. Le travail social est le fait de professionnels, notamment d'éducateurs, d'assistantes sociales et de structures bien spécifiques. En général, dans nos églises, nous faisons plutôt des actions humanitaires de proximité. Mais pour mon propos, pour simplifier et clarifier, je vais m'appuyer sur la définition de Daniel Hillion. Par social, j'entends toutes ces actions qui visent à répondre aux dysfonctionnements qui se produisent au sein d'une société humaine et qui affectent ses composantes les plus fragiles, en particulier les personnes et les populations qui souffrent de la pauvreté ou sont victimes d'injustice. Est-ce que l'organisation d'une action sociale dans l'Église en faveur des plus démunis est une mode ? La question est légitime, mais je crois qu'un survol biblique aura rapidement raison des plus sceptiques. Dans l'Ancien Testament, au travers de la loi donnée à Moïse, Dieu démontre un intérêt particulier pour les plus faibles, qu'il s'agisse des pauvres, dont le peuple doit prendre soin, ou de la veuve et de l'orphelin, mais aussi de l'étranger. Les populations les plus fragiles sont objets d'attention et de soins particuliers de la part de Dieu. Ainsi, pendant la moisson, par exemple, on devait laisser aux pauvres les bords des champs et laisser des épis qui n'avaient pas été glanés à la première fois. La loi interdisait aussi aux créanciers de réclamer des intérêts aux pauvres et de lui prendre son vêtement. Il y avait même une dîme spéciale pour le pauvre, le lévite, l'immigré, la veuve et l'orphelin. Les écrits de sagesse encouragent aussi à prendre soin des plus démunis. Et le livre des Proverbes, par exemple, affirme que ceux qui prennent soin des pauvres sont bénis de Dieu et qu'à l'inverse, le livre des Proverbes met en garde ceux qui font la sourde oreille et se cachent les yeux face aux besoins des plus démunis. Ce sont les prophètes en Israël et en Juda qui particulièrement vont être les champions de la justice sociale. Ces prophètes dénonçaient les injustices sociales à une époque de croissance économique où les riches devenaient toujours plus riches et où les pauvres devenaient toujours plus pauvres. Toute coïncidence avec des événements actuels serait purement fortuite. Dans le Nouveau Testament, la dimension sociale n'est pas absente. Alors certes, Jésus n'est pas venu établir un royaume messianique où régnerait la justice sociale. Mais son intérêt pour les plus fragiles est évident. L'évangile de Luc en particulier est certainement celui qui insiste le plus sur cette dimension. En même temps, il faut dire que Jésus ne fait pas l'apologie de la pauvreté. On relèvera que Jésus s'intéresse à tout. Jonathan nous a parlé hier de Jésus qui s'intéresse autant de la Samaritaine que de Nicodème. Jésus a guéri un mendiant aveugle, mais aussi la fille d'un responsable de la synagogue. Il s'est occupé d'un serviteur, d'un officier romain de Capernaum. Il vient en aide aux pauvres, mais aussi à des gens riches et haut placés. Et il n'idéalise pas la pauvreté. Il veut étancher la soif de tous. Les disciples vont prolonger cet intérêt pour tous en ayant une attention particulière pour les plus pauvres. On peut penser à ce que j'appelle la banque alimentaire d'Actes 6, mais aussi à Paul et Barnabas qui se souciaient des pauvres. Nous avons un texte dans Galates 2, versets 9 à 10. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main, à Barnabas et à moi, en signe d'accord et de communion. Et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis qu'eux se consacreraient aux Juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Il est plusieurs fois question d'une collecte pour laquelle Paul a investi du temps et de l'énergie. Ce n'était pas une mince affaire et il a pris les choses très au sérieux. Il va d'ailleurs particulièrement secouer les Corinthiens pour qu'ils participent à cette collecte. Cette collecte est pour lui la preuve tangible de l'amour qu'ils ont pour le Christ. On pourrait encore parler de l'épître de Jacques qui invite ses lecteurs à ne pas être uniquement dans les paroles, mais aussi dans l'action. On met parfois en opposition le fait d'évangéliser et l'action humanitaire ou sociale. Il y a deux extrêmes. D'un côté, il y a certains qui veulent que rien d'autre que la prédication ne soit entrepris. De l'autre côté, certains affirment que les chrétiens doivent s'impliquer dans le travail social et que le message passera de lui-même, et ce n'est pas la peine de faire du prosélytisme. D'un côté, je veux donner raison à ceux qui défendent le fait de dire le message de la croix. C'est Jésus-Christ qui sauve. En tant que chrétiens évangéliques, nous insistons sur le fait que le salut des humains ne se trouve qu'en lui. Toute action sociale, fût-elle professionnelle et parfaitement réalisée, ne pourra jamais sauver personne. Il y a donc nécessité de dire l'évangile, de parler de Jésus-Christ. On m'a raconté il y a quelque temps une expérience d'une jeune chrétienne qui habitait en colocation avec deux autres filles qui n'étaient pas chrétiennes. Elle avait un comportement exemplaire au sein de la colocation. Elle était respectueuse, aimante, irréprochable à tout point de vue. Elle espérait que son témoignage ferait la différence. Et effectivement, quelques mois après la fin de la colocation, une de ses anciennes colocataires est venue la voir et a dit « Waouh, il y a vraiment quelque chose de spécial chez toi, hein ? T'es végétarienne, non ?» Comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu ? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer ? Il est donc nécessaire de dire où se trouve le salut, où se trouve la vraie source d'eau. D'un autre côté, comme le disait William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, il n'est pas possible de partager l'évangile à quelqu'un qui a les pieds mouillés et qui a faim. Il faut des paroles et des actes. C'est une question de cohérence. Donner à manger ne donne pas le salut, mais ça ouvre une porte pour pouvoir être audible. Nous ne voulons pas être que des beaux parleurs. Nous sommes dans le monde, c'est une réalité, et le monde souffre. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne le savions pas. Nous connaissons probablement tous les versets d'Éphésiens 2, versets 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. On oublie parfois les versets qui suivent. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Des paroles et des actes. Nous cherchons à vivre toute notre vie à la suite de Jésus-Christ. Ce qui le préoccupe, nous préoccupe. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une foi qui serait vide d'actes. D'ailleurs, une telle foi n'est tout simplement pas envisageable. L'apôtre Jacques l'a décrit comme une foi morte, c'est-à-dire inexistante. Puisque nous sommes disciples de Jésus-Christ, notre vie est nécessairement marquée par l'amour de Dieu et de notre prochain. Il ne saurait en être autrement. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. C'est une question de cohérence de vie. J'aurais pu citer encore de nombreux textes, en réalité, pour appuyer ce que je suis en train de dire. C'est notre exemple qui change le monde, si on veut, en Christ en tout cas, pas nos opinions sur le Christ. Nous connaissons certainement plein de personnes qui ont marqué l'histoire, pas par des paroles, mais par des actes. Et les évangiles nous montrent l'exemple parfait de celui qui a accompli des paroles et des actes. Tout au long du Nouveau Testament, les disciples ensuite sont décrits non pas comme des gens qui adhèrent à une philosophie religieuse autour du Christ, mais des gens qui vivent, transformés par le Saint-Esprit. Et ça se voit. Ils sont en relation avec le Père, et leur vie est désormais marquée par l'amour. un amour qui puise son origine, sa source en Christ. Récemment, il y a un jeune Péruvien qui est arrivé à La Roche-sur-Yon. Et une des premières choses qu'il m'a dit, je ne suis pas croyant. Ok ? Pourquoi tu viens à l'église ? Ah oui, sois le bienvenu, hein, mais pourquoi ? Dans ma vie, j'ai rencontré plein de chrétiens évangéliques. À chaque fois, c'était des gens qui me respectaient et qui m'aimaient. Tout est dit. Il y a donc une dimension sociale dans l'engagement chrétien qui ne relève pas de la mode, mais de la cohérence de vie. Quand les chrétiens et les églises prennent à cœur les intérêts des plus démunis, les choses bougent et permettent à l'évangile d'être encore plus entendu. L'histoire de l'église le montre, et l'actualité récente aussi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise migratoire qui dépasse tout ce que l'on a connu. Et en Allemagne, des églises accueillent ces migrants. Et on constate de plus en plus de conversions dans ces églises auprès des réfugiés syriens. Parce qu'il y a des paroles et des actes. Alors l'action sociale concrètement. Avant de développer cet aspect, j'aimerais préciser qu'il y a plusieurs niveaux à partir desquels on peut agir. Et j'aimerais pas seulement que ce soit les grandes églises qui se sentent concernées, mais chacun d'entre nous, en réalité. Si on veut que les églises soient cohérentes en parole et en acte, l'église, c'est nous. À nous d'être cohérents, d'abord. À titre individuel et personnel, nous pouvons agir, ne serait-ce qu'en rejoignant une association qui intervient. Plus jeune, j'ai été marqué, à l'âge de 15 ans, par un voyage qui avait été organisé par une association en Alsace, dans un bidonville au Portugal. Toute ma vie a été marquée par ces 3 semaines dans ce bidonville. Je n'ai plus jamais vu le monde de la même manière. Quand je suis parti au Portugal, je pensais que je ne servais à rien, que j'étais nul, que je n'avais pas de dons, et que de toute façon, finalement, quand il y avait la machine de montage de Dieu, il y avait eu un bug informatique peut-être. Toujours est-il que quand c'était mon tour, il n'y avait rien qui était sorti. Et quand je suis arrivé au Portugal, j'ai vu cette détresse humaine. Et je me suis dit, finalement, il n'y a pas besoin de savoir faire grand-chose pour pouvoir simplement aider un petit peu. À un niveau individuel et personnel, nous pouvons agir. Bien sûr, on pense au niveau de l'église locale. Dans ce cas, le nombre de membres va certainement jouer sur la capacité d'action, c'est une certitude. Mais ça ne devrait pas être un frein pour les petites communautés, tout en étant réaliste sur nos projets. Quand nous avons commencé avec ma femme à l'Armée du Salut, au Havre, nous étions à peine une dizaine dans l'église. Et Dieu a mis dans notre cœur des projets que nous avons commencé modestement. Et petit à petit, ce projet d'aide pour des SDF, eh bien, a pris forme et Dieu a envoyé des gens compétents pour nous aider. Et au bout de 2-3 mois d'action avec les SDF, l'ancienne présidente des Restos du Cœur du Havre, qui était forte d'une expérience de 20 ans, est venue rejoindre les bénévoles. Ça aide. Les projets sociaux de proximité que nous avons développés ont permis à l'église de grandir au Havre. Au Tchad, j'entendais hier lors de l'Assemblée générale de la SMAF que les églises locales se développent parce qu'il y a une action sociale particulièrement marquée. Un autre niveau d'action, c'est le travail en réseau local. Certaines églises n'ont pas forcément les épaules pour pouvoir porter un projet toute seule. À Mulhouse, j'ai eu l'occasion de travailler avec 6 églises différentes pour commencer une action parmi les enfants dans les cités. Il y avait 1 ou 2 animateurs de chaque église, et parce que les différentes églises se sont mises ensemble à travailler, nous avons pu proposer pendant 5 ans des animations toutes les semaines à des enfants des cités qui n'avaient rien. Si nous étions restés au niveau de l'église locale, cela n'aurait pas été possible. Et peut-être qu'il nous faut ouvrir un petit peu les portes de nos églises, de nos façons de travailler pour nous mettre en réseau afin de pouvoir partager en parole et en acte cet évangile de Jésus-Christ. On pourrait aussi imaginer, bien sûr, à un niveau beaucoup plus large, au niveau de l'Union d'Église, voire du CNEF, une action sociale. Et certains projets se font à ce niveau-là, comme, qui sont portés par des associations comme le SEL ou comme le Défi Miché. Ce qui est certain, c'est qu'agir en faveur des plus démunis ouvre un champ d'action qui est particulièrement large. On pense évidemment au SDF, mais il y a bien d'autres publics qui pourraient bénéficier d'actions spécifiques. Et je ne ferai pas le tour de la question ici et maintenant. Les besoins, en tout cas, sont immenses. L'Observatoire des inégalités observe que dans les 10 dernières années, le nombre de personnes pauvres a augmenté d'un million. En temps de crise, beaucoup de personnes se retrouvent en difficulté, vous n'êtes pas le sans le savoir. Et les églises que nous sommes ne peuvent pas fermer les yeux sur cette réalité. Et je suis assez impressionné de voir l'action sociale des uns et des autres dans cette salle et dans les églises CEF en particulier. Mais j'aimerais donner quelques exemples d'actions possibles, simplement pour ouvrir des portes, proposer des pistes. Les mamans peuvent avoir besoin d'aide concrète avec les tout-petits. Souvent, c'est une période où les mamans sont toutes seules, inquiètes, surtout avec un premier enfant, et à plus forte raison quand le papa est courageusement parti. Beaucoup de mamans solo cherchent des lieux de parole, mais aussi des actions concrètes, des bons plans qui aident réellement, ne serait-ce que pour avoir un peu de temps, pour faire des courses ou autre. Pour les enfants, on pense bien sûr au soutien scolaire, à l'alphabétisation dans des quartiers de primo-arrivants, à des clubs de prévention, à des groupes d'animation. Dans notre union d'église, il y a beaucoup de groupes, des flambeaux, bien nantais basket, il y a des clubs d'enfants divers et variés qui apportent à leur manière une aide sociale. Et pour les enfants qui sont concernés, ça fait une différence. J'aimerais aussi rappeler l'histoire de ce qu'on a appelé les écoles du dimanche. C'était dans ce but. On pourrait parler des étudiants, des jeunes adultes, souvent coupés de leur cercle familial dans les grandes villes étudiantes. Il y a aussi là à réfléchir et des gens qui se mobilisent dans ce secteur-là. On pourrait parler du sentiment de solitude qui touche une personne sur deux. Le sentiment de solitude, c'est une personne sur deux en France. Et objectivement, on a calculé qu'un Français sur huit n'a aucune relation sociale. 1 sur 8. Est-ce que les groupes de dames, les groupes d'hommes, les groupes de seniors de nos églises ne seraient pas une possibilité d'action sociale concrète face au défi de la solitude? Et que dire des hôpitaux ou des maisons de retraite où, par manque de moyens, le personnel soignant doit à contre-cœur se résoudre à ne pas pouvoir passer plus de temps avec les personnes qui sont là? Là aussi, les églises ont peut-être des choses à apporter. Et puis, il y a des actions plus spécifiques, le handicap, la marginalité, l'exclusion. On peut penser à tous ceux qui ne mangent pas à leur faim, peut-être participer ou créer une banque alimentaire. Ça peut être particulièrement utile s'il n'y a rien dans le quartier. On pourrait parler du travail parmi les SDF. Ces 2 dernières années, 6 000 SDF sont morts. J'ai participé à une réunion à Paris, quand j'étais officier de l'armée du salut, où on disait « le monsieur qui est mort à l'angle de telle rue et telle rue ». Il n'y avait pas d'enterrement, rien, personne ne le connaissait. C'était un nom coincé entre deux rues. 6 000 personnes sont mortes ces 2 dernières années. On pourrait parler du travail parmi les migrants, parmi les prisonniers, parmi les prostituées. Ici à Nantes, il y a un projet qui marche extrêmement bien à ce sujet. On pourrait parler du milieu de la drogue. Mais j'aimerais toutefois prévenir que ce sont des milieux spécifiques qui nécessitent tout de même une certaine connaissance. Pour tout type d'action, il faut savoir où on met les pieds et nécessairement se former ou au moins s'informer sur le public visé. On ne peut pas s'improviser travailleur social, mais peut-être que dans nos églises, et c'est certainement le cas, il y a des personnes compétentes dans tel ou tel domaine qui peuvent apporter leur expertise et orienter les choses. Et je crois qu'il faut partir de nos églises locales, des dons qui sont là, des compétences des uns et des autres, pour réfléchir à telle ou telle action. Dans la France du XXIe siècle et dans le monde entier, le défi du social est immense. Les champs d'action sont quasiment illimités. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nos ressources à nous ne sont pas illimitées. Nos ressources humaines, nos ressources matérielles s'épuisent très vite et en particulier dans le domaine social. Alors avant de se lancer dans une action sociale, quelle qu'elle soit, il convient de s'arrêter et de réfléchir. Les bonnes intentions et les bonnes idées ne suffisent pas toujours. André Ponal a écrit « Si nous voulons faire davantage qu'un geste occasionnel et pérenniser notre action, nous devons nous asseoir et faire des calculs. » À Strasbourg, dans un des quartiers populaires qui s'appelle l'Elzo, un groupe chrétien était venu pour faire une action sociale de très grande envergure. Ils ont agi pendant un mois. Ils ont suscité un espoir énorme. Et ils sont repartis aussi vite qu'ils sont venus. Ils ont créé une détresse telle qu'ils auraient mieux valu qu'ils ne viennent jamais. Je suis dur dans ce que je dis, je suis désolé, mais je le pense vraiment. On ne joue pas avec la souffrance des gens. Les feux de paille ne font rien de bon. Une action sociale ne devrait pas chercher d'abord à être bruyante, visible ou médiatisée, mais fidèle, régulière et empreinte d'humilité. Lorsque nous sommes arrivés 3 ans plus tard, avec un groupe de l'Armée du Salut, qui s'appelait Action Quartier, il a fallu regagner la confiance des gens pendant des années à cause de cette action qui avait été un grand feu de paille. Semaine après semaine, mois après mois, nous avons fait des animations de rue dans les cités. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, nous étions là le mercredi après-midi. Et au bout d'un certain temps, nous avons décidé de faire venir Denisa au temple protestant du quartier. Et nous avons invité les enfants, en disant clairement ce qu'on allait faire. Plusieurs enfants avaient pris place, plusieurs dizaines étaient là. Et voilà que l'imam du quartier arrive avec ses 2 enfants, leur donnant la main. Puis il arrive près de l'officier de l'armée du salut, j'étais à côté, puis il dit « C'est chrétien là ?»« Oui. » »« Le spectacle que vous allez faire, c'est chrétien aussi ?»« Oui. » »« Mais vous, vous êtes là ?» Oui, nous sommes là. Alors je laisse mes enfants. C'est dans la fidélité et la régularité que nos paroles et nos actes portent du fruit. Le Seigneur nous appelle à être des lumières dans le monde et pas des flashs éblouissants. C'est quand la lumière persiste dans les ténèbres que les gens peuvent réellement avancer. Il est donc nécessaire de bien réfléchir avant de foncer. Donc faire une enquête de terrain est un préalable indispensable. Ce n'est pas la peine de créer un accueil pour les SDF s'il y en a déjà un. Notre action va être inutile et va peut-être même casser le travail de personnes qui essayent de réinsérer les SDF. Par contre, quand on prend le temps de discuter avec les partenaires sociaux, quand on discute avec eux, qu'on prend le temps à leur écoute de comprendre quels sont les enjeux, alors il est possible de trouver des vides dans lesquels, en tant qu'Église, nous pouvons intervenir. Au Havre, j'ai participé avec les assemblées de Dieu, surtout les assemblées de Dieu qui ont participé, moi j'ai juste eu un rôle de conseil. Ils ont mis en place un projet de bus de la solidarité. Ils ont travaillé avec les partenaires sociaux, essayé de comprendre comment ça fonctionnait pour les SDF. Et puis ils ont mis en place le bus de la main tendue. Le jeudi soir, le bus de la main tendue allait près de la gare, c'est le lieu habituel où se réunissaient les SDF. Et des bénévoles chrétiens de l'église, et d'autres églises d'ailleurs, offraient un café et un lieu de parole à tous ces SDF. Après le café, ceux qui le souhaitaient parmi les SDF pouvaient monter dans le bus et être conduits au centre d'hébergement de l'Armée du Salut. Le bus de l'église des Assemblées de Dieu est intégré au dispositif social de la ville du Havre. Ça, c'est puissant. C'est pas la peine de créer des actions en franc-tireur. D'autres travaillent sur le terrain, ici ou ailleurs. Il nous faut respecter ce qui se fait. Parfois avec beaucoup de peine, avec beaucoup de zèle aussi. Alors au-delà de l'étude de terrain, je crois qu'il est bon aussi de rédiger un projet et de réfléchir aussi aux moyens financiers. Ah, on n'aime pas parler argent. Et pourtant, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité indispensable dans l'action sociale et dans l'Église. À l'Armée du Salut, pour parler des dîmes, on utilise le mot des cartouches. Je vous explique. L'idée, c'est que pour faire la guerre au mal dans toutes ses formes, il faut des cartouches. Eh bien, je m'étonne du peu de moyens financiers que nos églises sont parfois prêtes à mettre pour le royaume de Dieu. On vise le minimum, alors que chacun chez lui veut le meilleur. Et il y a des choses qui ne sont pas justes, et je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, et l'idée, c'est pas d'être méchant ou de faire de tort à quelqu'un, mais j'aimerais dire quand même certaines choses. Nous avons dans notre union d'églises des personnes qui travaillent pour le bien des églises, au travers notamment du travail jeunesse, au travers de l'ASMAF. Ces personnes-là doivent chercher eux-mêmes leur soutien. Pour moi, c'est incompréhensible. Si chaque église ne versait que 50 euros par mois, tous les frais seraient couverts. Et le travail de toutes ces personnes serait totalement couvert par notre union d'église. Dans le monde séculier, personne n'oserait demander à un partenaire de trouver son soutien pour agir pour nous. Je ne vais pas aller voir l'artisan carreleur à côté et lui dire « Ok, tu fais le carrelage, c'est moi, mais tu trouves ton soutien. » Essayez, hein, vous allez voir. C'est ridicule. C'est aberrant. Surtout que les personnes dont on parle, ce sont des vraies personnes, avec des familles, et qui en fin de mois se disent « Mince, mais comment on va faire? On n'a pas tout notre soutien. » Alors que l'argent est dans nos poches. Dans nos églises. Excusez-moi d'avoir jeté ce pavé dans la mare. Mais ce n'est pas parce que le travail est fait par des chrétiens, ni parce que nous croyons à la toute-puissance de Dieu, que nous devons donner à ceux qui agissent des cartouches en bois, voire pas de cartouches du tout. Pour l'action sociale, comme pour l'église, pour que l'action porte du fruit, il faut des moyens. Certains diront que le Seigneur a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons. En disant que nos petits riens suffisent, certes, mais c'est oublier que le petit garçon, il a donné tout ce qu'il avait. Et on le chante facilement, « Je te donne tout ». Attention à ce qu'on chante. Je crains que parfois nous soyons plus les disciples qui renvoient la foule que ce petit garçon qui a pris à cœur ce que Jésus voulait faire. Alors au-delà de nos moyens financiers, il faut aussi constituer une équipe en définissant les rôles de chacun, de préférence en fonction des dons. Il convient aussi d'avancer avec les responsables de l'Église et l'Église dans sa globalité. Quand j'étais responsable de groupe de jeunes, j'avais parfois du mal à comprendre pourquoi les choses prenaient tellement de temps pour des projets qui me paraissaient si faciles à mettre en place. Si nous voulons que les projets durent, alors que nous sommes de passage, ils doivent être inscrits dans un tout global et ne pas dépendre de notre petite personne. Le projet ficelé, il convient d'en parler aux partenaires sociaux, de tester le projet et, je crois, de l'évaluer réellement et concrètement. L'action sociale comporte quelques pièges et j'aimerais en noter quelques-uns. Le premier est théologique. Si l'obéissance à Dieu, la pratique de la justice, le soin des pauvres et de ceux qui sont fragilisés peuvent être des signes de l'authenticité de la foi, il ne contribue pas à notre salut. Ça, nous le savons en tant que responsables d'église, les responsables de groupes de jeunes certainement aussi. Mais pour les bénévoles qui vont venir nous aider, ce n'est pas forcément le cas. Et il convient de dire tout à nouveau que le salut est en Christ, même à nos bénévoles qui font bien de nous aider. L'action sociale qui mène ne les sauvera pas. Au Havre, à l'Armée du Salut, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs bénévoles se convertir. Parce qu'on leur disait que l'action sociale ne faisait pas tout. Le deuxième piège, il concerne l'aide apportée. On a très vite fait de déresponsabiliser les personnes que nous souhaitons aider. Et il y a là un piège particulièrement difficile à éviter. Et toute la préparation de notre projet doit en tenir compte. Le but de notre action sociale, ce n'est pas de rendre les gens dépendants de notre action, ni même dépendants de notre église. De Christ, oui, certainement, mais de les aider aussi réellement à avancer. Le troisième piège, c'est celui de l'évangélisation camouflée. Je crois qu'il nous faut réfléchir dès le départ au but que nous visons. Est-ce que nous voulons aider les gens ou est-ce que ce n'est qu'un prétexte pour les attirer dans les filets de l'Église ? Dans la caricature, et c'est arrivé, il a pu... Malheureusement, certains chrétiens n'ont aidé que ceux qui acceptaient en contrepartie la séance d'évangélisation avant. Tu auras un colis alimentaire quand tu auras assisté au culte. Ce n'est pas juste de fonctionner de cette manière. Il nous faut réfléchir très sérieusement à nos motivations. Oui, nous voulons partager notre foi au moment opportun. Mais il ne faut pas instrumentaliser l'action que nous menons. Et quelle possibilité a un bénéficiaire de dire non quand il est dans le besoin et que sa survie dépend de votre aide ? Il nous faut garder en vue la gratuité, le don de soi et le désintéressement qui a caractérisé l'amour du Père à notre égard et que nous voulons vivre pour notre prochain. Imaginez la scène suivante avec le Samaritain qui, avant d'aider notre pauvre blessé sur la route, dit « Bon, ok, tu dis que les Samaritains sont meilleurs que les Juifs et alors se soignent. » Il a aidé sans rien attendre en retour. Christ a fait de même pour nous. Et je crois qu'il y a là le modèle que nous devrions suivre dans toute action sociale. C'est une action gratuite, sans objectif caché. Le piège, à l'inverse, ce serait de ne pas de cacher les intentions, les raisons qui nous poussent à agir. Notre action sociale n'est pas le fruit de bonnes intentions que nous aurions, mais nous agissons parce que Jésus-Christ a transformé nos vies. Et nous pouvons le dire dans nos projets, dans notre manière de nous présenter. Certains voudraient aujourd'hui faire disparaître toute conviction de l'espace public sous motif de la laïcité. Permettez-moi de citer le président de l'Observatoire de la laïcité. Ceux qui dénaturent la laïcité, ce sont précisément ceux qui en font un outil anti-religieux, qui prétendent, et ce qui est une erreur monumentale sur le principe même de la laïcité, que l'espace public est totalement neutre, comme si nous n'avions plus le droit d'avoir des opinions. Nous avons le droit de faire une action sociale parce que nous pensons que Christ nous appelle à aimer notre prochain. Nous sommes libres de le dire. D'ailleurs, je crois que notre action, si elle est bien menée, nous donne une crédibilité dans notre parole. Depuis 3 ans, je suis aumônier de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon. Et j'ai le privilège de voir Dieu agir au travers des petites choses que je peux faire. Et aujourd'hui, ma parole, au bout de 3 ans, a beaucoup plus de poids que quand j'ai commencé. L'inverse serait vrai aussi, si je faisais mal les choses. Je crois que nos actions peuvent nous donner une crédibilité, le droit de parler dans l'espace public. Et je remarque que lorsqu'on ne veut pas parler à tort et à travers, Dieu crée des occasions très spécifiques pour que nous puissions dire notre foi. Un autre piège, c'est que l'action sociale peut créer des tensions. Le projet, au départ, est très fédérateur. L'action elle-même peut très vite se transformer en champ de mine. Au Havre, nous avions tous les mois une vente de charité. L'idée, c'était de vendre des habits et des objets à très bas coût pour que les gens puissent acheter, être responsables du coût de leurs achats, mais que ce soit facile d'accès. Parmi les bénévoles, très rapidement, certains ont vu les avantages matériels qu'on pouvait tirer à faire partie du bénévolat. Et très rapidement, certains ont dit « Mais est-ce que je ne pourrais pas prendre ça parce que justement, la belle-sœur de mon cousin, par alliance, a besoin ?» Et c'est très rapidement difficile de dire non si on n'a pas fixé les règles au départ. Il y a là un piège à éviter. L'action sociale, c'est aussi un terrain fortement politisé, où il y a des enjeux de pouvoir et des enjeux économiques. On parle de charity business aujourd'hui, avec des grandes fondations qui ont des chasses gardées, parce que ça rapporte gros. Et il est possible que si votre action se développe et qu'elle porte beaucoup de fruits, vous ayez des personnes qui essayent de récupérer politiquement l'action que vous êtes en train de mener. Il y a là à réfléchir sur quels sont les compromis à ne pas faire, et là où ça nous fera de la publicité. La limite est parfois très fine. Le dernier piège que j'aimerais mentionner, c'est que la misère humaine est affligeante. Quand on agit face à la détresse humaine, il arrive qu'on soit accablé de tristesse par ce monde. Il y a tant de misère, tant de difficultés. Et lorsqu'on agit en pensant être le sauveur du monde, et c'est quelque chose qui est très évangélique, je dois vous l'avouer, on peut vite s'épuiser. Notre espoir repose non pas sur des changements que nous pourrions apporter, mais sur Christ. C'est lui la source de la vie. Et nous voulons persévérer parce que son amour nous renouvelle. C'est son amour qui nous anime. Malgré tous ces pièges, je crois que la dimension sociale de notre mission en tant que chrétien est indispensable. Pour nous, d'abord personnellement, question de cohérence, mais aussi dans nos églises. Notre présence chrétienne dans le monde ne saurait se réduire à un strict nécessaire, avec quelques incursions d'évangélisation, et puis ensuite en restant dans notre local bocal. Nous sommes appelés à vivre une vie de disciple sur notre lieu de travail, dans notre voisinage, en tout lieu. Et notre désir de nous engager dans ce monde qui souffre découle tout à fait normalement de notre relation avec Christ. Voilà un sacré défi pour chacun d'entre nous, pour nos églises, pour notre union d'églises. Vous connaissez certainement ce texte où Jésus explique qu'à chaque fois que quelqu'un a donné un verre d'eau, juste un verre d'eau, à quelqu'un dans le besoin, c'est à Christ qu'il l'a fait. Ce texte, si vous l'étudiez, vous verrez qu'il est question de cohérence de foi. On ne peut pas être chrétien, appartenir à Jésus-Christ et ne pas donner ce verre d'eau. Ce n'est pas possible. Que faisons-nous de notre responsabilité en tant que chrétien dans ce monde en agonie ? Nous vivons un beau congrès, en parole et en acte. La réponse va dépendre de chacun d'entre nous. J'aimerais terminer mon intervention avec une prière de William Booth qui a demandé l'aide du Seigneur pour pouvoir agir dans ce monde en souffrance. C'est une prière que j'ai faite mienne il y a quelques années et je vous encourage à la faire vôtre également. Avec ton aide, Seigneur, tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et soif, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Je me battrai, je me battrai, je me battrai.